Bonjour à tous les auditeurs de Neptune FM et merci d'être à l'écoute de l'émission Regards sur le passé proposée par le service patrimoine. Pascal, aujourd'hui avec vous pour vous raconter comment Port-Breton est devenu Port-Joinville. Nous voici donc dans le petit havre d'échouage de Port-Breton, aux prémices d'un immense chantier qui, pendant toute la deuxième partie du XIXe siècle, va profondément remanier le port de l'Île-Dieu et transformer la vie de ses usagers. Les présentations des ingénieurs des ponts et chaussées Dingler et Renaulot, le pilote des côtes ouest de la France par l'ingénieur hydrographe Bouquet de la Grille, ainsi que les récits et comptes rendus de quelques voyageurs et militaires du génie, ont guidé mes pas pour vous proposer une description aussi précise que possible des travaux réalisés, du contexte historique, économique et politique de leur réalisation, ainsi que de leurs conséquences sur le développement économique de l'Île-Dieu au XXe siècle. Nous l'avons vu, Port-Breton en 1832 est une crique à trois entrées, l'une au nord, l'autre au nord-quart nord-est et la troisième à l'est. Une crique défendue par trois môles vétustes, plus ou moins parallèle au rivage. C'est un port de relâche, relativement abrité, apprécié par les caboteurs entre la Loire et la Gironde. Cependant, tous s'accordent sur le fait que les houles de nord-ouest, les plus fréquentes, en se propageant le long du parement extérieur du grand quai, qui correspond au premier élément de l'ensemble qu'on appelle aujourd'hui le quai du Canada, les houles de nord-ouest donc viennent pivoter autour du musoir, c'est-à-dire au bout du quai, et provoquent une agitation dangereuse dans le port au moment de la pleine mer. Agitation d'autant plus dangereuse que fréquemment en hiver, les embarcations et les navires sont amarrés bord à bord. Les élus locaux, conscients de l'importance du cabotage pour l'économie de l'île, entendent bien profiter de la paix revenue pour mettre en œuvre les projets trop longtemps ajournés. Au début de la monarchie de Juillet, en 1830, le contexte politique et économique est peu favorable. Le gouvernement de Louis-Philippe fait face à une situation économique morose et le régime, attaqué de toutes parts, n'arrive pas à trouver de majorité stable. Pour se concilier l'opinion publique, le roi et son gouvernement prennent des mesures populaires et lance notamment un programme de grands travaux dont paraît bénéficier le port de l'Île-Dieu. Sous la pression des élus locaux, le service des ponts et chaussées lance le chantier de Port-Breton, dirigé par M. Pelot, ingénieur en chef, et M. Descharmes, ingénieur ordinaire. Ce chantier s'étalera entre 1834 et 1843. Reprenons en partie les propositions d'amélioration émises par l'ingénieur en chef Teuler, qui dès 1804 préconisait de protéger l'intérieur du port des lames du nord-ouest, particulièrement violentes lors des tempêtes d'automne et d'hiver. Les travaux de la jetée nord-ouest, qui correspond à la première partie du brise-lames actuel, débutent en 1834. Pour briser la houle de nord-ouest, on construit une jetée rectiligne s'enracinant dans le grand quai et perpendiculaire à celui-ci. Ces travaux entraînent la fermeture de la passe nord que les marins jugeaient rarement utile et souvent dangereuse. Parallèlement, entre 1835 et 1837, on établit sur le musoir du grand quai une tour tronconique en pierre, haute de 4 mètres, avec un balcon entourant la lanterne. Ce phare est mis en service le 20 juin 1837. Il est parmi les phares du port le seul ouvrage ancien encore en service et participe encore aujourd'hui, avec les nouveaux feux mis en place, au balisage de l'entrée de Port-Joinville. Près du phare, on installe également un mât de signaux. Enfin, pour faciliter la sortie du port des navires, qui sont alors très très majoritairement des navires à voile, même s'il existe déjà des navires à vapeur, on construit une tourelle de touage. Je vous explique de quoi il s'agit. Pour sortir de Port-Breton, Les bateaux doivent tirer des bords dans la passe qui est étroite. La manœuvre est délicate. Mais quand les vents sont dans la passe, c'est-à-dire orientés au nord-nord-est, les bateaux se retrouvent bout au vent et deviennent inopérants. En virant au cabestan une amarre fixée à un canon de quai ou à une chaîne immergée et fixée au fond, on peut obtenir le déplacement du navire, même par vent contraire, ce qui constitue une aide précieuse pour sortir du port. D'où l'importance de cette tourelle de touage installée à la sortie du port de l'Île-Dieu. La construction du premier tronçon de la jetée nord-ouest est apparemment achevée en 1836 et elle éloigne les effets de la mer du lieu de stationnement des navires. Cependant, ceux-ci sont encore exposés à un ressac violent au fond du port pendant les périodes de gros temps. C'est pourquoi, dès 1837, pour neutraliser les remous à l'intérieur du port, débute la construction d'un brise-lames circulaire sur le côté est du port, sur les rochers du port. Mais il semble que ce chantier ait eu à pâtir de l'instabilité du régime. Cavolo, dans sa statistique de la Vendée, publiée en 1844, fait en effet état de réclamations récurrentes émanant du Conseil général de la Vendée, qui entre 1838 et 1842 ne cesse de réclamer l'adoption d'un projet définitif pour le port de l'Île-Dieu et demande que le gouvernement fasse terminer les travaux actuels du port, lesquels sont indispensables pour la sûreté des habitations et des navires. De fait, il va falloir attendre la stabilisation du régime et le décollage économique du pays entre 1840 et 1846 pour voir les travaux reprendre. Sur les rochers du port, on achève donc la construction de la partie circulaire de la jetée nord-est, ce qui correspondait autrefois à la demi-lune et actuellement en gros au quai de la Criée et de la Glacière. Ce brise-lames, développé en arc de cercle sur la face intérieure du rocher du port, vient fermer le plan d'eau entre les deux passes d'accès. Puis, de 1842 à 1845, entre la batterie de la chapelle et l'enracinement de la jetée nord-ouest, on construit un mur de garantie destiné à protéger la côte des attaques de la mer, parfois si violente en cet endroit que nos anciens l'avaient baptisé le Cap Enragé. C'est le quai de la Chapelle. Parallèlement, le déploiement des feux sur la façade atlantique se poursuit et on dote le port de l'Île-Dieu d'un nouveau phare, destiné par son alignement avec le phare du Grand Quai, appelé aussi quai de la Tour depuis l'érection du phare, à indiquer aux navires qui entrent dans le port la direction de la passe principale. Ce phare, construit en 1845, selon les plans de l'ingénieur Descharmes, est situé en retrait des quais, dans une rue qui ne s'appelle pas encore la rue des Mariés. D'une hauteur de 18 mètres, il est conçu sur un plan carré et comprend à sa base un logement de gardien. Comme le phare du Grand Quai, son feu fixe a une portée de 9000 en mer. Le phare de la rue des Mariés, ainsi que nous l'appelons aujourd'hui, est mis en service au début de l'année 1846. L'année où le port reçoit l'appellation de Port Joinville. Cette même année, on installe également une potence photophore au bout du brise-lames de la jetée nord-ouest. À l'issue de cette première tranche de travaux, Port Breton devient donc Port Joinville. Mais qui est ce Joinville qui donne son nom au port de l'Île-Dieu? François Ferdinand Philippe d'Orléans, prince de Joinville. Il est le troisième fils de Louis-Philippe et, né à Neuilly le 14 août 1918, il sera élève de l'école navale avant d'entreprendre une carrière remarquée dans la marine. Promu contre-amiral en 1844, c'est un farouche partisan de la modernisation de la flotte française au sein de laquelle il encourage l'introduction et la multiplication des navires à vapeur. Également conscient de l'importance de la mise en défense des côtes, il aurait contribué, par son soutien efficace, à l'agrandissement et à l'aménagement du port de l'Île-Dieu. C'est pourquoi, par ordonnance royale en date du 4 février 1846, le port principal de l'île perd son nom de port breton pour prendre le nom de celui que la municipalité en place reconnaît comme son bienfaiteur, le prince de Joinville. Notons pour l'anecdote que dans les faits, l'ancien nom de Port-Breton sera encore utilisé par la population et même par les employés municipaux ou de l'inscription maritime jusqu'après la Première Guerre mondiale. Ainsi, Bouquet de la Grille, que nous avons déjà cité, dans son pilote des côtes ouest de la France, où il décrit les abords de l'île, la nature des fonds et les courants, en 1873, nomme encore le port de l'Île-Dieu Port-Breton. Et puis plus tard, pendant la Première Guerre mondiale, l'administrateur de l'inscription maritime Auguste Bléjean, en poste sur l'île, emploie encore régulièrement le terme de Port-Breton pour désigner Port-Joinville dans sa correspondance officielle avec le préfet maritime de Rochefort. Dès 1850, un nouveau programme considérable est à l'étude. Mais à ce moment-là, la révolution de 1848 a considérablement affaibli le régime dont la chute devient inévitable. Une partie seulement des travaux sera donc exécutée. Le prolongement de la jetée nord-ouest jusque sur les basses du Tourneau. Ces travaux offrent le double avantage de mieux abriter le chenal contre les coups de vent du nord-ouest et de faire disparaître l'écueil du Tourneau qui découvrait pendant les basses eaux d'équinoxe. Désormais, les navires peuvent venir, même à marée basse, se mettre à l'abri derrière le prolongement de la jetée, où il reste encore assez d'eau pour qu'un navire de force moyenne puisse stationner sans échouer. À partir de 1852 et jusqu'en 1870, soit pendant toute la période du Second Empire, le port de l'Île-Dieu ne fait l'objet que de travaux d'aménagement accessoires qui améliorent cependant le quotidien de ses usagers. Après le prolongement de la grande jetée jusque sur les basses du Tourneau, on remplace la balise en bois qui existait à l'entrée du port par une tourelle en maçonnerie. Une borne, située à son sommet, permet le toise des navires qui peuvent désormais se faire aller pour l'entrée ou la sortie du port quand les vents sont contraires. Le long du grand quai, une cale en pente douce, appuyée sur le mur intérieur, vient faciliter les embarquements, chargements et débarquements. En 1867, une maison abri pour canots de sauvetage, avec une cale de mise à l'eau, est édifiée à l'enracinement de la grande jetée. Elle remplace l'ancien abri construit en 1840 sur le vieux quai au fond du port. Cette maison abri, vous la connaissez, elle est toujours en place et elle fait partie des éléments significatifs du port de Port-Joinville. Enfin, en 1869 et 1870, on reconstruit au fond du port un mur de défense contre la mer, le quai Vernier. Après l'avènement de la Troisième République, les ingénieurs proposent de construire une jetée dite de l'Est, s'enracinant dans le quai Vernier et se dirigeant vers le muroir sud du brise-lames circulaire. Sur les préconisations de certains marins, qui craignent un calme trop complet par vent d'amont, on laisse néanmoins un passage de 25 mètres pour la passe de l'Est. Il est également proposé alors de démolir les vieux ouvrages, une partie de la vieille jetée et le vieux quai, et de déraser les roches intérieures du port, les rochers du Sourdi et du Couillard, qui désormais, compris dans la partie abritée de l'enceinte, sont devenus des obstacles et gênent la manœuvre dans le port. Ces différents travaux, exécutés dans l'arrière-port entre 1875 et 1881, année où on ferme finalement définitivement la passe de l'Est, garantissent désormais le calme dans l'enceinte portuaire. Dans le même temps, la cale d'embarquement du Grand Quai est transformé en un quai insubmersible, ce qui améliore considérablement les transactions. Dans un rapport de 1883, M. Dingler, ingénieur en chef des ponts et chaussées, souligne l'efficacité du chantier accompli. Je le cite. « L'effet produit par ces divers travaux fut très satisfaisant. On peut même dire que Port-Joinville n'est réellement un port de refuge que depuis cette époque. Il note également un peu plus tard que ce résultat coïncide d'ailleurs avec un développement inespéré de la pêche côtière et les services rendus par ce port depuis 30 ans aux chaluteurs du Golfe sont incalculables. En effet, ces transformations, initialement prévues pour relancer le cabotage, vont en fait permettre à la pêche de se développer. Au milieu du XIXe siècle, le cabotage, en crise depuis la fin du XVIIIe siècle, est pratiquement ruiné. Il ne reste qu'une vingtaine de caboteurs sur les 180 que comptait Port-Breton au début du XVIIIe siècle. L'apparition et le développement du chemin de fer, depuis l'ouverture des premières lignes françaises de marchandises et de voyageurs entre 1827 et 1830, et puis leur développement tout au long du XIXe siècle, ont porté le coup de grâce au transport maritime et le cabotage ne s'en relèvera pas. L'île traverse alors une crise économique. La pauvreté touche de nombreuses familles. Les habitants vivotent de l'agriculture et de la pêche qui ne comptent encore que quelques canots, peut-être une vingtaine. La pêche côtière a touché l'île, nourrit la population depuis des siècles, mais elle ne constitue encore, en ce milieu du XIXe siècle, qu'une activité vivrière dont l'isolement de l'île ne permet pas d'envisager l'exploitation marchande. Le poisson pêché autour de l'île est majoritairement mangé sur l'île. Avec le développement des nouveaux moyens de communication, le chemin de fer mais aussi l'automobile, la pêche devient rentable car on peut désormais envisager son exportation. C'est une reconversion inespérée pour les marins de l'île. Reconversion dont témoigne l'ouverture de la première criée sur le quai de la Chapelle dès 1896. Mais n'allons pas trop vite. Sur la côte atlantique, un autre phénomène est déjà à l'œuvre qui impactera profondément l'économie insulaire. Une nouvelle activité prend son essor. L'industrie de la conserverie, dont le développement extraordinaire va pour un temps sauver l'île du marasme économique. Le voyage dans le temps est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée. Et je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle excursion dans l'univers des conserveries. À bientôt !